Je vous invite, chers frères et sœurs, chers amis, à ouvrir votre Bible dans 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Et nous allons lire les versets 1 jusqu'à 11. 1 Pierre 4, 1 à 11. Ainsi donc, 1 Pierre chapitre 4, 1 à 11. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. L'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme des hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse avec la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu, que son esprit nous aide à la comprendre. Le contexte de ce passage, que nous venons de lire, si on voulait faire un petit résumé contextuel, on pourrait dire que c'est un appel à vivre avec la mentalité de Christ. Armez-vous, dit l'apôtre Pierre ici, verset 1, des mêmes pensées. Christ ayant donc souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Donc c'est un appel à vivre avec la mentalité de Christ concernant l'acceptation volontaire de la souffrance à cause de l'Évangile. Ceux qui endurent les souffrances donnent la preuve d'une vie qui s'écarte du péché. C'est ce qu'il dit ici, car celui qui a souffert en a fini avec le péché. Donc il montre une vie qui s'écarte du péché, il la montre en se soumettant à la volonté de Dieu. Et ce que dit cette vie est tellement clair, que tellement vrai, que ceux qui vivent encore dans le péché, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils dénigrent ces chrétiens dont la vie même sainte est peut-être une condamnation à leur propre vie. Alors, Pierre dit que l'impunité apparente des calomniateurs, parce qu'on peut penser, peut-être qu'ils pensaient, oui, mais ils font du mal, mais eux, ils vivent bien après tout, ils ont l'air heureux. Eh bien, Pierre dit que l'immunité des calomniateurs n'est qu'une apparence en réalité, car tous vont devoir rendre compte au juge suprême, les vivants et les morts, dit au verset 5. Et puis après, il dit que le temps dans lequel le chrétien vit, c'est un temps qui tire à sa fin. La fin de toute chose est proche. Et donc, il doit être motivé par l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? La prière, l'amour les uns envers les autres, l'hospitalité, l'utilisation de ses dons au service des autres, l'utilisation de ses dons pour rechercher une plus grande efficacité spirituelle dans notre manière de parler, de communiquer et dans l'accomplissement d'un ministère. C'est ce qui est essentiel, il dit en terminant ici au verset 11, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu. Ça, c'est de manière très résumée ce que l'apôtre Pierre dit dans tous ces versets. Mais nous ne perdons pas de vue que tout ça s'installe dans un cadre encore plus grand qui est le cadre de toute l'épître de Pierre, dans laquelle il traite du thème de la souffrance des chrétiens et de leur attitude dans cette souffrance. Rappelez-vous, il disait que vous avez été choisis par Dieu, mais vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Il les exhorte à avoir une bonne conduite au milieu des païens, au sein même de leur souffrance. Et donc, chaque passage que l'on lit dans cette épître, elle est intimement liée au fait que les chrétiens souffrent et qu'ils doivent avoir une attitude particulière au sein de cette souffrance. Donc, les versets que nous voulons considérer ce matin sont les versets 4 au verset 6, où il est dit « Aussi trouvent-ils étrange, donc les non-croyants trouvent-ils étrange, dit l'apôtre Pierre, que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Mais ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. » On a l'impression que Pierre parle ici globalement de jugement. Hein. Il parle du jugement que va exercer Dieu, verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Et puis il parle de morts qui, après avoir été jugés hein, comme des hommes, vivent selon Dieu quant à l'esprit. Et donc, quelque part, il veut probablement focaliser la pensée des lecteurs, de ses auditeurs, sur le jugement de Dieu pour les motiver à vivre une vie sainte, à continuer à vivre une vie sainte, même s'ils souffrent. C'est ce qu'on a, par exemple, en 1 Pierre, regardez au verset 17, chapitre 1, verset 17, où il dit, verset 16, il dit, « Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint, verset 15, pardon déjà, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Et au verset 17, il dit, et si vous invoquez comme père celui qui juge, selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, alors quelle est la conséquence? Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Donc c'est un appel, on pourrait dire, qu'on retrouve ici dans la section que nous avons lue, à considérer le jugement de Dieu qui vient comme une motivation pour continuer à vivre dans une vie sainte. Donc le titre du message ce matin, c'est « Le jugement qui vient, une motivation à la sainteté ». Le jugement qui vient, une motivation à la sainteté. Et pour motiver les croyants à vivre à la sainteté en considérant le jugement, je crois que l'apôtre Pierre les appelle à ne pas s'attendre, premièrement, à être approuvés par les incroyants dans leur vie, à ne pas s'attendre à ce que leur vie de chrétien, la recherche de la sainteté dans leur vie, soit quelque chose qui est approuvé par les non-chrétiens. C'est ce qu'on voit au verset 4. Ensuite, il les appelle à savoir que malgré les apparences, Dieu jugera les actes des hommes. Dieu jugera les actes des hommes. Et puis, troisièmement, il les amène à considérer que le jugement à venir est la raison pour laquelle l'Évangile a été prêché. Ça, au verset 6. Alors, nous voulons considérer ces trois choses ce matin. Premièrement, la vie de sainteté inspire, je vais le mettre comme cela, différemment de ce que j'ai dit avant, mais la vie de sainteté inspire le mépris des incroyants. La vie de sainteté inspire le mépris des incroyants. Aussi, dit Pierre au verset 4, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnie. Il y a quelque chose ici que l'on doit considérer premièrement, c'est que Pierre dit qu'il y a une différence entre le non-croyant et le croyant. Il dit quelque part que la vraie conversion implique une vraie séparation. La vraie conversion implique une vraie séparation. Vous ne vous précipitez pas avec eux. C'est ce que vous faisiez avant. Mais maintenant, vous ne le faites plus. Et donc, la vraie conversion opère un vrai changement dans le comportement. Changement d'esprit, changement d'affection, changement d'intérêt, changement de lecture, changement d'activité, changement de langage, mais une vie différente. Pierre dit même que non seulement le vrai croyant s'écarte du péché, mais il s'écarte du chemin qui est susceptible de l'amener à pécher. Vous voyez ça ici? Il dit, ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux. C'est-à-dire qu'il y a probablement une rupture, même parfois dans les relations. Parfois, on veut couper avec le péché, mais on ne coupe pas avec les moyens qui nous amènent au péché. Prenons l'exemple de quelqu'un qui dit, qui prie, Seigneur, voilà, que mes yeux soient purs. Mais ils sont tout le temps devant la télé. C'est difficile, n'est-ce pas, vu tout ce qui passe, de garder une certaine pureté dans les choses si on passe son temps devant la télé. Donc, oui, le désir de ne pas pécher, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, en cherchant à s'écarter du péché, dit Pierre ici, s'écarter du chemin aussi qui mène vers le péché. Et donc, il dit, quelque part, il dit ce que sont les pensées des non-croyants, mais en même temps, leurs pensées sont fonction de ce qu'ils voient chez le croyant. Ils voient cette vraie séparation ici. Donc, Pierre dit que le vrai chrétien, ici, la vraie conversion implique une vraie séparation. Mais il dit aussi que la vraie conversion intrigue et attire le mépris. Donc, il trouve d'abord étrange, c'est quelque chose de bizarre pour eux, que vous ne vous associez plus avec eux alors que vous le faisiez auparavant. Et donc, après la surprise, semble dire Pierre ici, vient la calomnie. Peut-être qu'après la surprise, ils essaient de vous rattraper, on pourrait y penser à ça, viens, ils essaient de vous réinviter, mais tu faisais ça avant, tu ne peux pas me dire que ce n'était pas bon, etc. Et voyant la résistance et vraiment la rupture nette, alors là, peut-être se sentant jugé même dans ce qu'ils font, eh bien, ils commencent à critiquer, à se moquer, et puis à calomnier, à dénigrer, dit Pierre ici. Et donc, quelque part, il dit, il ne faut pas s'attendre. Vous êtes dans la souffrance, c'est vrai, mais il ne faut pas s'attendre ici à ce que les croyants, que les incroyants apprécient la recherche de la sainteté, apprécient une vie qui s'écarte du péché. Ils trouvent ces changements-là étranges. Et si vous persistez dans ces changements-là, eh bien, ils sont amenés parfois à vous mépriser, à calomnier, et à se moquer de vous, parfois ouvertement, mais parfois pas forcément ouvertement, mais il y a de la moquerie ou de l'insulte qui peut arriver. Et l'épître de Pierre, si vous vous rappelez, si vous relisez, vous allez voir qu'il parle des difficultés que rencontrent les croyants dans la sphère familiale. La femme, vous qui avez le mari inconverti, qui souffre, et Pierre lui dit, attention, il faut rester là, il faut prier pour son mari, il faut se comporter comme il faut, hein, pour essayer de le gagner, sans parole, etc., avoir une bonne conduite en face. Il parle de l'attitude des esclaves et des maîtres, et il demande d'être soumis, même à ceux qui sont d'un caractère difficile, et le caractère difficile se manifeste surtout par rapport au fait qu'ils sont devenus des chrétiens. Il parle donc de vis-à-vis des autorités aussi, d'accord ? Il exprime cela, l'attitude que doivent avoir les croyants vis-à-vis des autorités. Donc, dans tous ces domaines, il y a des difficultés, il y a de la souffrance, il y a peut-être du mépris, il y a peut-être de la calomnie qui vient. Mais c'est une manière de dire, attention, vous ne pouvez pas vous attendre à être bien traité. Et Jésus avait dit la même chose à ses disciples. Il leur avait dit de ne pas s'attendre à être bien reçu parce que l'Évangile et ceux qui portent l'Évangile s'attire l'opposition. Écoutez ce qu'il dit en Jean chapitre 15, versets 18 et 19. Il dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Voilà la raison du mépris. La raison du mépris, c'est que Christ lui-même, il a été méprisé en premier lieu, et que tout chrétien est associé à Christ. En fait, c'est Christ qui est haï à travers la vie du chrétien. Et donc, Jésus dit à ses disciples, le monde vous hait parce que je vous ai choisi, parce que je vous ai ôté hors du monde, parce que vous n'êtes plus du monde, vous ne partagez plus les pensées du monde, la manière de vivre du monde, le système de valeurs de ce monde. Et le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il aime ce qui est à lui. Il aime ce qui lui ressemble, ceux qui font les mêmes choses, ceux qui se précipitent avec lui dans les mêmes débordements, etc. Ça va. Donc, si le monde vous aime, c'est que vous êtes en train de faire comme le monde. Mais si vous vivez vraiment comme un enfant de Dieu, eh bien, ça leur paraît étrange et ça attire aussi le mépris et les calomnies. Jésus disait encore à ses disciples, Matthieu chapitre 10, 34, il dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. » Bon, on dit que l'évangile, c'est quand même l'évangile de paix, n'est-ce pas? Et c'est vrai. Mais il dit de prime abord, dans les effets immédiats, terrestres, si j'ose dire, de l'évangile, quand l'évangile pénètre quelque part, il ne faut pas vous attendre à ce que tout le monde applaudisse, tout le monde dise « Waouh, hein, c'est super, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connaissais pas ça, etc. » Il dit « Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée sur la terre. » Il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère et sa... » On arrive à voir ça, hein. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Même dans sa maison, il connaîtra de l'adversité, il connaîtra des conflits. Parce que lorsque l'évangile pénètre, ça amène du conflit. L'évangile est résolument conflictuel. C'est l'évangile de paix qui amène la paix de l'âme. Mais l'homme naturel ne reçoit pas ces choses. Il se dresse contre cela. D'accord ? Et il est prêt à calomnier, à insulter, à critiquer, à dénigrer tous ceux qui veulent marcher ainsi. Donc Pierre dit donc aux croyants que le refus de s'associer vraiment au mal entraîne et entraînera des calomnies. Et donc pour vivre la vie sainte qu'il demande ici, il faut être conscient de cela, que la vie de sainteté inspire de la part de ceux qui ne connaissent pas Christ le mépris et les calomnies. Et il faut être prêt à cela. Et ne pas se décourager, ne pas forcément chercher à être aimé, parce que parfois on est comme ça, hein, on veut être aimé, on veut être apprécié, et donc parfois on va faire comme, ok ? Il dit non, il dit il faut maintenir cette différence, il faut vivre, non plus selon la convoitise des hommes, vous vous rappelez, mais selon la volonté de Dieu, en sachant que la différence que vous manifestez dans votre manière de vivre sera sujette à critique, à dénigrement et à mépris. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il dit qu'il faut avoir, pour vivre, être motivé par la sainteté, il faut avoir ici la conviction que Dieu jugera le mal. Avoir la conviction que Dieu jugera le mal. Verset 5. Il dit « Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Pierre veut que les croyants soient convaincus de la certitude que Dieu jugera le mal. Et c'est une parole qui est censée encourager les chrétiens qui sont moqués, qui sont calomniés à cause du choix volontaire qu'ils ont fait de suivre Christ. Il dit, vous devez savoir une chose, d'accord, concernant ceux qui calomnient, la grande masse de ceux qui critiquent, qui méprisent. Il dit, Dieu jugera toutes choses. Dieu jugera les actes. Ils devront rendre compte. Ça veut dire que Dieu tiendra une juste comptabilité de tous leurs actes. Hein. Rendre compte, c'est un terme comptable ici, hein. Un terme d'intendance. Hein. On va, les choses sont notées dans un livre, dans un registre de compte, et puis on tire un trait en dessous et on fait voilà, le calcul, il y a ça, et ensuite, eh bien, il dit qu'on doit rendre compte de cela. L'Évangile emploie souvent cette expression. Par exemple, Jésus raconte des paraboles hein, où il est question de rendre compte. Il y a, dans Luc chapitre 16, verset 2, il y a ce maître qui avait confié ses biens à un gérant. Ensuite, il demande au gérant, « Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Et le sens de rendre compte peut aussi être rendu parfois par justifier quelque chose. Acte 19, verset 40, lorsqu'il y a eu cet l'attroupement, rappelez-vous, à Éphèse, avec grand Eladian des Éphésiens, il y avait tout un tumulte, etc. Et je ne sais plus comment il s'appelle, mais le gouverneur, le consul, le proconsul arrive et puis il va dissoudre la foule en leur rappelant qu'il risque d'être accusé pour sédition à cause de cet attroupement. Il dit ceci, il dit, nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier, c'est la même expression que rendre compte ici, de justifier cet attroupement. Donc dans le fait de rendre compte, il y a le fait de devoir justifier de ses actes. Ils vont devoir justifier. Pourquoi ils ont agi comme cela, etc. Donc il y a ce sens-là. Et la plupart du temps, l'expression « rendre compte » traduit le fait de répondre de ses actes devant Dieu au jour du jugement dernier. Et c'est ce sens qui est utilisé ici dans ce que Pierre dit. Il dit « tous ces moqueurs, tous ceux qui rejettent Christ, qui critiquent les croyants, qui les méprisent, qui les insultent, qui les font souffrir, il dit « ils devront rendre compte à Dieu au jour du jugement dernier. » Donc, rendre compte est une nécessité qui se pose à eux, dit Pierre. Ils n'auront pas le choix. Ils devront répondre de leurs actes. Et aucun acte ne sera épargné. L'Écriture affirme avec force cette vérité que les hommes rendront compte pour tous les actes qu'ils auront accompli. Pierre donne une liste non exhaustive au verset 3 quand il dit « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens vivant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. » Mais ce n'est pas tous les actes qui existent. Mais la Bible dit par ailleurs que tous les actes seront jugés. Matthieu 12, 36 dit « Je vous dis, au jour du jugement, c'est Jésus qui parle ici. » Il dit « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront prononcées. » Pas de quelques-unes, de toutes paroles vaines qu'ils auront prononcées. Donc toutes les paroles, tous les actes. Jude 14, 15 dit « Voici, le Seigneur est venu avec les saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. » Pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. Donc, tous les impies, tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toute parole injurieuse qu'ils ont proférée contre lui, qu'ont proféré contre lui des pécheurs impies. Et ceux qui profèrent des paroles impies contre le Seigneur, il le profère contre des croyants aussi. Lorsque l'apôtre Paul est arrêté sur le chemin de Damas et qu'il est aveuglé par la présence de Christ, qu'est-ce que Dieu lui dit hein? Il dit, Paul, pourquoi me... Il ne dit pas pourquoi persécutes-tu les chrétiens. Il dit pourquoi me persécutes-tu. Autrement dit, et Paul était en train de courir après des chrétiens pour les enfermer, les faire tuer, etc. Donc il dit, tous ces chrétiens qui souffrent là, c'est moi que tu persécutes. Donc quand Dieu dit ici qu'ils vont rendre compte de toutes les injures proférées contre lui, il inclut les injures proférées contre les chrétiens et les calomnies aussi, et les actes de les meurtres, les assassinats, toutes ces choses. Et c'est ce que Pierre dit, ils rendront compte, n'oubliez pas cela, ils rendront compte à Dieu au jour du jugement. Donc les paroles, les actes, même les actions secrètes, les pensées secrètes, Romains 2, 16 dit, c'est ce qui apparaîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et Ecclésiaste 12, 2 dit ceci, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Et puis il ajoute, soit bien, soit mal. Donc absolument aucun acte n'échappera au jugement de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de prescription. Aucun acte ne sera épargné et personne ne sera épargné. Pierre dit qu'il jugera les vivants et les morts. Ceux qui sont aujourd'hui vivants, au moment où il écrit, et ceux qui sont déjà morts. Donc, ça veut une manière d'englober tout le monde. On peut penser parfois à des personnes qui ont commis des choses ignobles dans l'histoire, dans notre histoire, et qui meurent, si vous voulez, dans leur méfait, sans même qu'ils aient pu être jugés civilement. Et on trouve ça injuste, n'est-ce pas? On dit, oui, voilà, ils sont morts. Même quand, des fois, il y a des gens qui font des choses mauvaises et puis qui sont tués dans un accident, il y a une part d'insatisfaction parce qu'on dit, oui, il est mort, mais il n'a pas payé pour ses actes. Il n'a pas rendu compte de ce qu'il a fait. On n'a pas mis en face de ses actes. Eh bien, Pierre dit ici que les vivants et les morts subiront la véritable justice de Dieu. Et l'Écriture affirme cela de manière claire. Apocalypse 20, 12 dit ceci, et c'est extrêmement solennel. Apocalypse 20, 12, 13 dit, « Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » C'est une vision assez particulière, hein, écoutez bien cela. Il dit, « Des livres furent ouverts, les livres de compte, avec les actes. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Il y a des livres de compte. Et le comptable, c'est Dieu. Et il n'oubliera absolument rien. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et pour nous faire bien comprendre que personne n'échappera, il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Il y a des gens qui sont morts, on ne les a jamais retrouvés, de manière ou d'une autre. La mer, les airs, les accidents d'avion, bateaux, voitures, etc. Il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Il n'y a aucun mort qui puisse exister quelque part et qui ne vienne pas dans ce rendez-vous particulier. Et il ajoute, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Pierre dit, il faut vous souvenir de ça, enfant de Dieu, que Dieu jugera les actes mauvais, tous, et personne n'échappera. Les livres furent ouverts, Dieu tient une comptabilité précise, chaque action, chaque parole, tout est enregistré. Et la mort ne sera jamais un refuge pour échapper à la responsabilité de répondre, qui consiste à répondre de ses actes devant Dieu. Les méchants devront rendre compte, mais aussi les chrétiens devront rendre compte. Alors, je n'ai pas le temps de développer tout cela, mais la Bible dit que chacun rendra compte de ce qu'il aura fait étant dans son cœur. L'apôtre Paul dit, car nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ et répondre de nos actes. Je continue le passage dans Pierre et il dit, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger. Alors, quel est celui qui est prêt à juger? Quelle est l'identité de ce juge? Qui c'est qui juge? Il dit que c'est Dieu qui juge. Mais on peut supposer qu'ici, l'apôtre Pierre parle particulièrement de Jésus-Christ. Parce que la Bible affirme que Dieu juge par Jésus-Christ. Dieu est celui qui juge, dit le psaume 75, verset 8. On disait ça mardi soir, on aime parler du Dieu d'amour. On aime parler du Dieu miséricordieux, du Dieu compatissant. Celui qui est fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Puis il y en a même qui ajoutent qu'ils aiment le pécheur, les péchés. Enfin, parfois, on ajoute même des choses un peu bizarres hein, dans cela. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui ne dérange personne. Dieu t'aime malgré ta misère, malgré tes faiblesses. Mais l'Écriture parle de Dieu comme celui qui est aussi le juge. Et Jésus dit en Jean 5, 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Et Pierre lui-même, lors de sa prédication à Corneille, hein, quand il était dans la maison de Corneille, il dit ceci, il dit « Jésus, après la résurrection, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Il dit « Jésus nous a ordonné de prêcher ça. » C'est-à-dire que moi, Jésus-Christ, je suis établi par Dieu comme juge des vivants et des morts. C'est le message qu'il a été chargé de prêcher. Pas un message doudouiste, oui, Dieu aime tout le monde, etc. Oui, Dieu est amour. Bien sûr, il le prêche, mais il dit, voilà ce que Dieu nous a demandé, exigé que l'on prêche. Le jugement qui vient par lui. Et quand on lit Actes chapitre 17, c'est exactement ce que dit Paul devant le parterre de philosophes à Athènes. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde, d'accord, selon l'homme qu'il a désigné, d'accord, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et on sait très bien qu'il parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité des morts et sa résurrection, c'est la preuve qu'il est le juge que Dieu a choisi pour juger le monde. Et ça, c'est une réalité qu'on ne doit absolument pas oublier ici. L'apôtre Paul dit en 2 Timothée 4, 1, « J'attends qu'on jure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. » Et il est présenté comme celui qui doit juger les vivants et les morts. Et ce juge est un juge qui est juste. C'est le juste juge. Ce juge est un juge qui est puissant. Il exécutera son jugement. Vous savez, dans notre pays, on parle parfois de prononcer des peines. Il y a un juge qui prononce des peines. Et puis après, il y a un juge d'application des peines. Et parfois, il semble que les peines qui sont prononcées ne sont pas forcément exécutées. Et j'ai lu que, par exemple, en 2013, le ministère de la Justice disait qu'il y avait 60 000 peines prononcées, mais non exécutées. C'est énorme. Des peines, de prison ou autre chose, et elles ne sont pas exécutées. Et donc le juge qui a prononcé la peine, il n'a pas le pouvoir de la mettre à exécution. Mais concernant Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a le pouvoir de mettre les peines à exécution. Jérémie 51, 12 dit, « Car l'Éternel a pris une résolution, il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. » Il prononce un jugement, il exécute. Il a le pouvoir de l'exécuter. Ézéchiel 30, 19 dit, « J'exercerai mes jugements. » Dieu dit ça, « J'exercerai mes jugements. » Ce n'est pas juste un jugement qui est prononcé verbalement, c'est un jugement qui est prononcé et qui sera forcément exécuté. Donc il dit, « J'exercerai mes jugements sur l'Égypte et ils sauront que je suis l'Éternel. » C'est un juge qui a le pouvoir d'exécuter ce qu'il prononce. Et peut-être que les lecteurs de Pierre se disait, mais ceux qui nous calomnient, ils jouissent d'une certaine impunité. Il ne se passe rien. Ils font du tort, etc. Les crayons meurent, mais eux, ils demeurent vivants et puis ils continuent. C'est pas juste. Est-ce que Dieu n'a pas le pouvoir d'exercer son jugement Et Pierre dit, ils rendront compte. Ça, c'est une certitude que vous devez garder bien présente. Et la preuve que Dieu est un juge qui exécute ses jugements, eh bien, c'est qu'il a déjà exercé des jugements dans le passé et qu'il en exécute encore dans le présent, dans la vie de tous les jours. Si vous faites un survol de la Bible que vous lisez, vous serez surpris par le nombre de situations dans lesquelles Dieu a jugé. Déjà dans le jardin d'Éden, il a prononcé un jugement qu'il a exécuté. Parce qu'il a dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Et les hommes meurent depuis à cause du péché. Le jugement du déluge, le jugement de Sodome et Gomorre, la mort des premiers-nés en Égypte. C'est intéressant parce qu'en Nombre chapitre 33, verset 4, Dieu dit que lui-même que la mort des nouveau-nés en Égypte, c'est son jugement. Il le dit comme ça. Okay. Le jugement du veau d'or. Les deux prêtres Nadab et Abihu qui ont été tués sur place. La déportation du peuple à Babylone. Et pour ne citer que quelques exemples de l'Ancien Testament. Et puis il y a des gens qui disent « Oh, je n'aime pas l'Ancien Testament, Dieu frappe, Dieu juge, etc. » Le Nouveau Testament, oh, hein, comme on disait mardi soir, ça c'est vraiment le Dieu d'amour. Eh bien, le Nouveau Testament n'est pas en reste. Ananias et Saphira, d'accord ? Et puis on pourrait citer l'exemple des chrétiens de Corinthe, où l'apôtre Paul dit « Plusieurs sont morts, plusieurs sont malades et d'autres sont morts parce qu'ils ont méprisé la table du Seigneur et Dieu les a fait mourir. » Il dit « C'est la raison pour laquelle ils sont morts. Ils ne sont pas morts du Covid. » Ça, c'est instrumental. Ils sont morts parce qu'ils ont méprisé la table de Dieu. Donc Dieu les a amenés sur eux un jugement. Il emploie le terme de jugement quand il le dit. Élimas, d'accord, que Paul rend aveugle parce qu'il s'opposait à l'évangile. Il y a encore d'autres exemples. Hérode qui est frappé, d'accord, pour son orgueil, instantanément. Et donc, dans le Nouveau Testament aussi, on voit des jugements de Dieu. Et encore aujourd'hui, plein de choses se passent. On n'a pas toujours les certitudes sur une chose ou une autre, mais Dieu est toujours le Dieu qui juge. Et on sait qu'il exécutera son jugement, ses jugements au jugement, au jour du jugement dernier, parce qu'il a donné déjà des preuves qu'il est le Dieu qui exécute des jugements contre le péché. Et il les a physiquement et effectivement réalisés. Et donc, tous ces exemples témoignent que Dieu est un Dieu qui juge, qu'il juge par Jésus-Christ et qu'il a jugé dans le passé, dans le présent et qu'il le fera aussi dans l'avenir. Et il y a un auteur qui fait remarquer ceci. Il dit que les prophètes de l'Ancien Testament passent plus de temps à parler du jugement qu'à annoncer le Messie et son royaume. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a plus de textes qui parlent du jugement de Dieu que de la venue du Messie. Et on avait dit mardi soir, vous vous rappelez, quand on regarde le Nouveau Testament, les gens qui pensent que le Nouveau Testament, voilà, c'est bien, etc. Bon, c'est pas bien, je veux dire, mais voilà, qu'ils font une espèce de comparaison qui ne doit pas être faite. Eh bien, Jésus est celui qui parle le plus du jugement à venir, d'accord, de l'enfer, etc. Et j'écoutais quelqu'un qui avait comptabilisé les choses, il disait qu'une douzaine de fois, je crois, Jésus parle de l'amour, un peu plus ou moins, mais à peu près 70 fois, il parle de jugement, d'enfer et de toutes ces choses. Jésus lui-même, d'accord. Donc, c'est quelque chose qui est important à considérer. Donc, Pierre dit à ses lecteurs ici, il faut avoir la conviction que Dieu jugera le mal. Et puis, dernièrement, il dit encore autre chose dans le verset 6. Il dit « Car l'évangile a été annoncé aux morts afin que, après avoir été jugés comme des hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Il dit « Il faut comprendre la finalité de la prédication de l'évangile. » Il faut comprendre la finalité de la prédication de l'évangile. Il dit que le jugement à venir est la raison de la prédication de l'Évangile. Je vais vous lire ce verset dans la version Semeur. Il dit, c'est pour cela. Le verset commence avec c'est pour cela. Ici, nous avons car l'Évangile fut annoncé. Mais il dit, c'est pour cela. C'est quoi le pour cela? C'est ce qu'il dit avant. Ce qu'il dit avant, c'est le fait qu'il y aura un jugement. C'est pour ça que l'Évangile est annoncé. Donc il dit, c'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui maintenant sont morts afin qu'après avoir subi les mêmes condamnations que tous les hommes dans le corps, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Donc le jugement annoncé au verset 5 est la raison de la prédication de l'Évangile. Marc 1, 14, la Bible dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il prêchait l'Évangile de Dieu. Alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il colle les deux choses. Quand il dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, ça veut dire que le jugement vient. C'est ce que ça veut dire. Le temps où Dieu va établir toutes choses, la fin des choses approche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se repentir et croire à la bonne nouvelle, qui est l'Évangile. Donc l'Évangile, d'accord, la finalité de l'Évangile, ici, dit Pierre, bien, c'est le jugement qui vient et la raison pour laquelle l'Évangile est prêché. Ici. La prédication de l'Évangile est liée à la proximité du jugement qui vient. L'Évangile fait connaître à l'homme son péché et l'Évangile menace du jugement qui tombera. Mais en même temps, l'Évangile offre le remède que Dieu a pourvu. Donc, l'Évangile, si vous voulez, c'est le remède à ce jugement qui vient. Il faut le considérer comme cela. Pierre semble dire ça à ses lecteurs. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est le jugement. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'est le remède ici qui vient après la mauvaise nouvelle. Certes, Christ est le juge, mais il est aussi le sauveur. Et c'est dans ce sens que l'Évangile existe. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts. Alors, qui sont les morts ici ? Alors, il y a beaucoup de choses que l'on dit à propos de ce verset. Il y en a qui utilisent cela pour dire que l'Évangile a été annoncé à ceux qui sont morts. Une fois qu'ils sont morts, ils ont encore entendu l'Évangile. Et donc, parle d'une espèce de seconde chance après la mort. Mais la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir. Après quoi vient le jugement. Okay, donc, il n'y a pas de seconde chance. Okay. Mais on peut penser assez, je pense, justement, que puisque Pierre, parle des incroyants qui rendront compte, d'accord, pour tout ce qu'ils auront fait au verset 5, il parle à la fin de ce verset de ceux qui vivent selon Dieu par l'Esprit, donc, et qu'il présente l'Évangile comme le remède à ce jugement qui vient, eh bien, il témoigne ainsi à ses croyants que ceux qui sont morts dans l'Évangile, c'est-à-dire les croyants qui sont morts ici, à qui l'Évangile a été annoncé, eh bien, ils vivent selon Dieu dans l'Esprit. Donc, au premier siècle, les chrétiens avaient beaucoup de craintes concernant la souffrance, concernant la mort. Il y avait une confusion parfois qui régnait. Et une chose les troublait particulièrement, c'était le sort des chrétiens qui sont morts. Qu'est-ce qui va leur arriver ? Eux pensaient que Christ allait revenir de leur vivant. Et donc, ceux qui mouraient avant que Christ soit venu, est-ce qu'ils étaient condamnés ? Est-ce qu'ils avaient du mal à cerner tout cela ? Et l'apôtre Paul, quand il écrit 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit, nous ne devons pas être ignorants au sujet de ceux qui sont morts. Il rétablit les choses pour eux. Il dit, nous n'allons pas les devancer. D'accord ? Et donc, il leur dit, il ne faut pas vous inquiéter. Ils ne sont pas oubliés. Ils sont aussi au Seigneur. Ils vont ressusciter. Ils seront aussi, ou nous serons unis avec eux, à Christ. Ils avaient des craintes concernant cela. Et vous savez comment fait le monde lorsqu'il peut discerner des choses qui semblent incohérentes dans le christianisme ou dans l'expression de la foi des chrétiens. Il s'en sert pour pouvoir les critiquer, pour pouvoir calomnier. Et probablement, c'est la même chose qui arrivait ici à ses lecteurs de Pierre. Hein. Il devait leur dire, mais oui, vous sacrifiez votre vie, vous vous amusez pas, vous faites rien, vous vous sortez pas, et puis vous voulez suivre Christ, vous dites que voilà, il va venir vous chercher, etc. Mais vous mourrez comme tout le monde, comme nous, sans que rien ne se passe. Alors, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'est un petit peu ce qu'il leur disait. Et dans 2 Pierre, on trouve un petit peu cette idée-là. Hein, 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, il dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. » Et qu'est-ce qu'ils font, ces moqueurs? Verset 4. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Il y a des gens qui disent ça. « Oui, tu me dis Jésus-Christ reviendra. » Quelqu'un m'a dit ça une fois. « Tu me dis Jésus-Christ reviendra. » Mon ami, ça fait 2000 ans qu'on dit ça. Il est où? Moi, je te dis, il n'y aura pas de jugement. C'est ce que la personne m'a dit. Pourquoi? Parce que les choses semblent apparemment marcher pas comme nous l'espérons ici. Et pareil pour Pierre. Vous souffrez, vous dites oui, Christ, voilà, il va vous ôter. Mais il est où? Vous mourrez comme tous les autres. Et les croyants sont troublés. À quoi a servi la souffrance puisque certains sont morts avant même que Christ soit de retour? Et les détracteurs, ils s'en servent ici. Et Pierre montre ici, premièrement, je crois quand il donne ce verset, que la prédication de l'Évangile n'a pas pour but de prémunir contre la mort physique. La prédication de l'Évangile n'a pas pour but de prémunir contre la mort physique. Quand l'Évangile a été annoncé aux morts, d'accord, c'est-à-dire qu'ils étaient vivants quand cela a été annoncé, maintenant ils sont morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Pierre dit que ces morts ont été jugés comme les hommes, quant à la chair. Je relis encore dans la version Semeur, afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les hommes dans leur corps. La mort physique qui les a atteints est un jugement. La mort est toujours un jugement. La mort, ce n'est pas la conséquence de la maladie. Jamais. La mort, c'est une sanction que Dieu a posée contre le péché. Pourquoi est-ce que l'homme meurt? Pas parce qu'il est malade. Il ne meurt pas parce qu'il est malade. Il meurt parce que Dieu a dit que la mort, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça qu'on meurt. On ne meurt pas parce qu'on est malade. Alors la maladie conduit à, c'est une cause instrumentale ici. Mais la Bible affirme clairement, Romains chapitre 5, verset 2, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, car tous ont péché. Que le croyant meure, la mort est toujours un jugement contre le péché. Donc même quand celui qui a cru à Christ, il meurt, d'un certain sens, je crois que c'est ce que Pierre dit ici, il a été jugé quant à la chair, comme tous les autres hommes. C'est une partie du jugement de Dieu dans la chair que tout le monde subit. Nous subissons aussi les conséquences du péché de différentes manières. Et la mort physique en est une, ici. Ils ont été, parole de vie dit, ils ont été jugés selon la chair, ils ont été jugés selon ce qu'ils ont fait, comme tous les hommes. Donc c'est un jugement. Et Pierre dit, n'oubliez pas ça, ils sont morts, ils subissent un jugement de Dieu, selon la chair. Mais le jugement de Dieu n'est pas que selon la chair, il est jusque selon l'esprit, il est jusque dans la vie éternelle. Et il dit, ici, il ajoute, ils vivent selon Dieu, même s'ils sont morts, même s'ils sont jugés comme tous les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Et donc, il dit que la finalité de l'Évangile, c'est de prémunir contre le jugement dernier. Pas contre la mort physique, mais contre le jugement dernier. Et en ce sens, l'Évangile, si vous voulez, la finalité de l'Évangile ici, je vais le relire comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La finalité de l'Évangile, si vous voulez, c'est donc le chrétien doit comprendre que la finalité de l'Évangile ici, c'est de prémunir contre le jugement dernier. et la Bible le soutient. Jean 5, verset 24 dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. » Il ne vient point en jugement. Donc vous voyez ici, la vie éternelle prémunit contre le jugement. Il a la vie éternelle, donc ça c'est l'évangile, il croit à l'évangile, et il ne vient point en jugement. Regardons le dernier passage en Hébreux, chapitre 10, et au verset 26, il dit, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, l'évangile, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de quoi ? Du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Donc l'évangile, la prédication de l'évangile, c'est le rempart contre le jugement qui vient. Et Pierre dit ici, voilà, le jugement vient certainement, mais ça doit être pour vous une motivation à vivre selon la sainteté. Et le croyant doit considérer profondément ces choses. L'évangile n'est pas là pour me donner une meilleure santé, pour me donner un meilleur travail, pour me donner des meilleurs diplômes, pour me donner un mari, pour me donner des enfants, etc. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile du salut qui permet de vivre, de tenir face au jugement qui vient. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Mais celui qui ne croit pas, il n'a pas la vie. Et la Bible dit que la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà pourquoi l'évangile est prêché. C'est pour dire aux hommes, attention, il y a un danger. Dieu est un juge juste qui ne laissera pas le coupable impuni. Mais il a pourvu à la personne de Christ aussi le remède, le salut, afin d'être préservé de cette colère à venir. Et un Thessalonicien, je crois, le dit, hein, il dit, on raconte comment vous vous êtes converti en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ceux qui reçoivent Christ changent d'orientation, comme Pierre le dit. Ils suivaient les idoles, ils avaient des anciennes activités. Maintenant, ils suivent le Dieu vivant. Et tout le reste de leur vie, ils attendent celui qui maintenant les protège, les couvre, les préserve de la colère à venir. Quelle grâce ! Quelle grâce ! Nous devons remercier Dieu pour cela et ne pas considérer les villes de n'importe quelle manière. Nous devons, si nous affirmons être chrétiens, consulter notre vie. Est-ce qu'il y a une véritable séparation, comme Pierre le dit ici ? Ou est-ce que c'est une vie où nous nous associons encore avec nos habitudes passées, les choses du passé ? Sinon, il faut vraiment se repentir, il faut vraiment venir à Christ. Quelles sont nos nouvelles affections ? Est-ce que c'est l'Église ? Est-ce que c'est le peuple de Dieu ? Est-ce que c'est la communion des frères et des sœurs ? C'est ce qu'il dit ici à la fin du passage, quand il parle, Pierre, il le dit très clairement, je le relis, on l'a lu tout à l'heure, hein, il dit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je viens vaquer à la prière dans ma propre vie, mais aussi avec l'Église ? C'est ça qui montre que je suis une nouvelle créature ici. Est-ce que j'aime les autres, ayant les uns pour les autres un amour ardent, l'amour couvre une multitude de péchés ? Est-ce que je me mets à critiquer les autres ou est-ce que je les aime à un point tel que mon amour couvre même leurs défauts ? Est-ce que j'exerce l'hospitalité sans murmure ? Ou est-ce que c'est toujours, ouais, bon, il faut l'inviter, je vais le faire, mais pff, c'est barbant. C'est ça qu'il dit ici. Est-ce que je me mets au service des autres ? Pour les servir. Est-ce que je parle avec un langage qui sied à un chrétien ? Est-ce que je suis engagé dans l'Église, dans un ministère quelque part ? Toutes ces choses, nous allons les voir une autre fois, mais voilà ce qui nous met est sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a une vraie séparation, une vraie conversion? Une vraie conversion entraîne une vraie séparation. Une vraie conversion entraîne une vraie conception du jugement de Dieu qui vient. Une vraie conversion implique une bonne compréhension de la finalité de l'Évangile. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Te demandons que par ton esprit, tu nous aides à la saisir encore davantage pour la gloire de ton nom. Aide-nous à vivre ces choses, à nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Seigneur, aide-nous à considérer ce que ta parole considère, à ne pas nous laisser influencer par les opinions des hommes, mais à nous laisser pénétrer par la vérité de ta parole. C'est ce que tu dis qui est vrai. Et donne-nous de les recevoir pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Amen.